Voilà, bonjour à tous. En tout cas, il y a des enfants dans cette église. On se rend compte que la salle s'est vidée pour la moitié, je suppose. C'est formidable, la relève est assurée. Merci de m'accueillir, merci. C'est une joie d'être là. Je suis venu ici il y a fort longtemps. On a à peine reconnu les lieux. Et c'est aussi un privilège pour moi d'apporter sa parole et je remercie le Seigneur de son immense grâce parce qu'il me permet encore de partager cette parole à Saint-Flour et puis aussi avec vous ce matin. Alors j'aimerais vous lire un texte très simple dans la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 6. Je méditais ce texte dans ma lecture quotidienne il y a quelques semaines et deux ou trois choses m'ont frappé dans ce texte et particulièrement dans le contexte dans lequel cet événement avait eu lieu. Et ce matin, je vais bien sûr parler de ce texte, mais aussi de ce qui se passe à ce moment-là autour de cet événement. Alors Matthieu 26, 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Elle répandit. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ce texte est important, même si on pourrait penser au départ que c'est un acte simple parmi tout ce qui nous est raconté dans l'Évangile. Il est important parce que Jésus lui-même le dit, on parlera de cette femme dans le monde entier, partout où la bonne nouvelle sera annoncée. Ce qu'elle a fait est donc vraiment important. Et puis il est important parce que cette femme, à cette époque, a été une des rares personnes à comprendre tout ce qui allait se passer et qui s'y est préparée. Ce texte est lumineux dans une période très sombre, ténébreuse, avec des contrastes saisissants. Comme jamais se côtoient, dans ces derniers chapitres de l'évangile de Matthieu, bassesse et grandeur, vilenie et noblesse, faiblesse et puissance. Dans ces dernières pages, ce qu'il y a au fond des cœurs va jusqu'à son paroxysme. Et nous sommes étonnés de voir ce qui se passe. Et nous sommes étonnés de voir cette femme qui, dans ce contexte-là, apporte quelque chose de lumineux. Jésus, vendu, trahi par Judas et par la foule, qui a préféré Barabbas, abandonné, renié, calomnié, méprisé, faussement accusé, injurié, tenté comme jamais de renoncer à l'œuvre pour laquelle il est venu. C'est une révélation très claire de l'état du cœur de l'homme, de nos cœurs, qui est mauvais, nous dit la Bible, qui est attaché à l'argent. Notre texte en dit un mot. Son inconscience d'une foule qui va crier « Crucifie-le !» Sa folie, son péché, dit la Bible en résumant, l'homme a vraiment raté le but pour lequel il avait été créé. Égaré, perdu dans les ténèbres, heureusement ce matin nous avons lu qu'une lumière est venue. il y aura des larmes dans la suite de ces textes, des larmes de repentance, mais aussi de désespoir, et des yeux qui, enfin, vont s'ouvrir. Révélation aussi dans ces derniers chapitres, s'il en était encore besoin, du cœur de Jésus, de sa force intérieure, alors qu'il est dans un état de faiblesse extrême, physique et morale, il aime jusqu'au bout. Il lave les pieds de ses disciples. Au dernier repas, il offre le meilleur morceau et rend honneur à celui qui va le trahir, Judas. Il ne dit rien face aux accusations et aux calomnies, aux faux témoignages. Quelle force pour faire cela, quelle puissance. Il demande le pardon à ceux qui le maltraitent. Là aussi, quel amour. Il guérit l'oreille du souverain sacrificateur qui a été amoché par un excès de zèle, mal placé. Et dans ses souffrances indescriptibles qui vont jusqu'à ce « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'en remet à son Père. Il donne sa vie. Personne ne la lui prend. C'est lui qui la donne. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Quelle puissance pour faire cela. Il a tout accompli et on peut dire qu'à ce moment-là, pour Jésus, c'est un sans faute. C'est parfait. Et quelques jours après, la résurrection va le justifier, va le déclarer fils de Dieu avec puissance. La mission est accomplie, l'expiation de nos péchés est faite. Il va retrouver la gloire de son Père, comme on l'a lu aussi ce matin, et la bonne nouvelle va pouvoir être répandue dans quelques semaines dans le monde entier, et avec cette bonne nouvelle, l'histoire de cette femme. En préparant cette méditation, je me suis dit que moi, ça fait que deux fois en 30 et quelques années que j'ai parlé de cette femme. Donc il y a un manque, puisqu'il est dit qu'on doit en parler plus souvent. Une femme qui semble avoir tout compris. Et ce n'est pas très flatteur pour nous les hommes, mais dans ces derniers chapitres, il est beaucoup plus question des dames qui sont là et des hommes qui se cachent. Le plus souvent. C'est peut-être révélateur aussi du courage de celle que nous appelons injustement le sexe faible. L'Évangile justifie. Donc cette femme qui s'appelle Marie, selon le texte parallèle dans Jean 12, la sœur de Marthe et de Lazare, elle est proche de Jésus. Elle a choisi dans sa vie d'être à ses pieds, à son écoute, et elle écoute avec son cœur. Elle sait qu'il va mourir. Les autres aussi ont entendu parler. Jésus a dit plusieurs fois, je vais mourir. Mais cette parole ne s'est pas gravée dans leur cœur. Ils étaient préoccupés à d'autres recherches, celle de la première place, celle peut-être aussi de l'argent, puisqu'il prend pas mal de place aussi dans ses réactions, ou tout simplement, ils ont oublié parce qu'ils n'ont pas écouté avec leur cœur. Que peut-elle faire, cette femme, à ce moment donné? Jésus va mourir. Que peut-elle faire? Ben, rien. Il y a des situations ou des événements que l'on ne peut pas empêcher. Pierre a voulu l'empêcher et il s'est ainsi fait reprendre vertement par le Seigneur parce qu'il s'opposait à l'œuvre de Dieu. Il y a des événements qui doivent arriver. Jésus le dira aussi dans l'Évangile, dans ces temps-là aussi. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses dans nos vies qui se passent. On ne comprend pas toujours pourquoi. Mais il y a des choses qui doivent se passer selon le plan de Dieu. Il y a des douleurs qu'on aimerait éviter aux autres. Et pourtant, il est nécessaire qu'ils passent par ce chemin parfois. Donc elle a discerné, cette Marie, qu'il le faut. il faut que Jésus meure. Son cœur souffre, car Jésus lui a tout donné. Son amour, son enseignement qui lui a ouvert les yeux, ce qui a ouvert son cœur, il lui a donné la foi et l'espérance. Elle a vu la résurrection de son frère. Elle est chez Simon, qui avait été guéri de la lèpre. Elle a vu l'action du Seigneur. Et en retour, elle lui a déjà et depuis longtemps donné son cœur. Mais que dire à la circonstance? Je crois qu'on ne peut rien dire dans certaines circonstances. Elle ne peut ni ne doit empêcher Jésus de mourir, mais elle va, 6 jours avant la Pâque, accomplir un geste prophétique, compris à ce moment-là seulement par Jésus. Elle va embaumer son corps. Et par son geste, elle dit son acceptation de la mort de son Seigneur. Elle dit aussi sa foi en la rédemption qui doit être accomplie par l'agneau de Dieu, Jésus. Elle dit aussi son espérance en la résurrection, parce que Jésus, lorsqu'il a parlé de sa mort, il a aussi parlé dans ces mêmes moments de sa résurrection. Mais personne ne semble à ce moment-là avoir pris conscience de ces événements. Elle dit sa reconnaissance, elle dit son amour. Certains, pour ne pas dire tous, s'indignent de cette perte qui représente environ 300 jours de travail, si on tient en compte ce que Judas a estimé, lui qui tenait la bourse et qui le premier s'en inquiétait, mais c'est parce que, nous dit le texte, il se servait un petit peu dans la bourse aussi. Ils ont prétexté l'idée que ça aurait été mieux placé pour les pauvres, mais pour elle, rien n'est trop cher, rien n'est trop beau pour dire son amour. C'est juste et c'est normal à ses yeux. Oui, elle a tout compris. Et même si elle ne recueille pas l'approbation des autres, elle a celle de Jésus et sa reconnaissance. Elle annonce que son action ne sera jamais oubliée. Elle l'a fait pour Jésus. C'est ça qui compte. Alors elle va quitter cette maison avec des larmes de souffrance, mais aussi de bonheur. Elle aura la force d'accompagner son maître jusqu'au bout. Nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui quelques leçons de ce récit. Dans la Bible, il y a un parallèle entre l'adoration, la prière de reconnaissance, l'offrande et le parfum. Je vous ai dit que c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Nous vivons une époque de l'histoire qui est noire, ténébreuse, un peu comme celle très troublée, un peu comme celle de ces derniers chapitres de l'Évangile. Il y a des événements douloureux dans notre monde et peut-être aussi dans nos vies. Il y a une accentuation du mal et du bien aujourd'hui, selon ce que nous dit la Bible. Une accentuation de ces deux choses, de ces deux extrêmes. Et des choses que nous ne comprenons peut-être pas trop bien, des situations pour lesquelles nous ne pouvons rien faire. Le cours de l'histoire avance selon le plan et le contrôle de Dieu néanmoins. Que nous puissions aussi, comme Marie, faire monter notre adoration, signe de notre espérance, de notre foi, de notre reconnaissance envers notre Sauveur, et le faire en tout temps. J'en mesure dans ma vie l'importance. Et je comprends que ce n'est pas pour rien que c'est le premier commandement. Parce que lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous le louons, lorsque nous nous plaçons devant lui, les choses semblent se remettre à leur place dans nos cœurs, dans nos pensées, et prendre leur juste valeur. Nous attribuons trop de valeur dans notre société à ce qui est matériel et beaucoup moins, pas assez, à l'amour et au spirituel, bien sûr. Que nos offrandes, soient faites avec joie. Celles d'une part de nos biens pour l'œuvre du Seigneur, de notre temps et celles de nos corps aussi, estimées par Romains 12 comme étant normales, logiques, une juste réponse à l'amour du Seigneur. Parfois, il nous en coûte d'adorer, de louer le Seigneur. Il en coûte particulièrement beaucoup à nos frères et sœurs actuellement qui, dans une bonne majorité, sont persécutés pour leur foi. L'actualité nous le dit. Mais ils le font chaque jour, sachant que le royaume vient. Le Seigneur vient bientôt. Adorons, louons et prions avec eux. Ce sont pour nous des exemples de foi. Parfois, nous ne sommes pas compris, et même davantage, par notre entourage. Mais Jésus sait. Jésus n'oublie pas. Jésus n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais notre amour, notre adoration, sont d'un grand prix à ses yeux. Et ce n'est jamais du gaspillage lorsque nous faisons les choses par amour pour Jésus, bien au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement, mais nous avons les pauvres et nous pouvons manifester notre amour pour Jésus envers les plus petits d'entre les siens, nous dit encore ces chapitres de la fin de Matthieu. Comme Marie, sachons écouter le Seigneur avec nos cœurs. C'est un reproche qui m'a été fait dans ma vie, de lire la Bible trop avec ma tête et pas assez avec mon cœur. Et ça a été une libération pour moi, lire la Bible avec son cœur, écouter avec son cœur, pour discerner comme Marie les temps où nous sommes, afin que nous nous préparions, que comme Marie, nous puissions en quelque sorte devancer le temps. Et mesurons de plus en plus, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur qui nous révèle Jésus, la grandeur de son sacrifice. C'est immense, c'est énorme, c'est indescriptible. Et plus nous le mesurons, plus nous adorons. Et Dieu, qui sait toutes choses, qui connaît nos cœurs, saura, comme Marie, nous encourager pour que nous allions jusqu'au bout avec lui. Amen.